Quelle est la mission de l'Église? Quel est son rôle? La semaine dernière, nous avons entendu Jésus envoyer les disciples dans le monde pour prêcher, si vous vous en souvenez, la conversion et le pardon des péchés. La conversion, c'est se tourner vers le Christ. En me rapprochant de lui, je me rapproche de sa lumière et en même temps, je prends conscience de mes actions et de leurs conséquences. Me convertir, c'est m'engager sur un chemin où j'aimerais, j'y arrive pas toujours, mais j'aimerais que les conséquences de mes actes et de mes choix aillent dans le sens de la vie, prennent en compte la vie des autres. Me convertir, c'est aimer au sens responsable, c'est-à-dire répondre de ce que je fais. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui mettre en pratique cette exhortation de Jésus en abordant le thème de la justice. La justice agit quand les conséquences de nos actes ont été mises en lumière. Et nous verrons la différence entre la justice humaine et celle de Dieu. Le thème de la justice est profondément ancré en nous. Nous y sommes sensibles, que ce soit dans nos histoires personnelles ou dans ce que nous entendons des injustices provoqué par des injustices. Les injustices peuvent être commises volontairement ou non, et souvent la justice humaine tente de démêler les fils dans des situations où l'ignorance, la malveillance et parfois la volonté délibérée de faire du mal sont en place. En ce moment, en France, des archives s'ouvrent. Et des enquêtes sont menées, par exemple sur la guerre d'Algérie, sur le Rwanda. Cela permet de faire la lumière sur des situations qui restent dans l'ombre, et c'est après coup évidemment qu'on peut comprendre, essayer en tout cas de comprendre comment les décisions des uns et des autres ont mené à des conséquences parfois dramatiques. J'ai lu il y a quelque temps dans le journal protestant Réforme un article qui m'a beaucoup intéressée sur les expérimentations de la bombe atomique dans la région du Pacifique. Ce que l'article met en évidence, c'est la volonté politique de minimiser les dangers pour la population, notamment lors des explosions aériennes dans les années 60. Après, il y aura des explosions à l'intérieur du sol, très profondément. Et l'article étudiait justement comment s'étaient passées ces explosions aériennes. Et un des chefs de l'expédition scientifique précisait qu'il serait bien de minimiser les chiffres pour ne pas perdre la confiance de la population des îles voisines. Cette population a donc été exposée aux radiations sans rien savoir. Il y a eu énormément de conséquences sur la santé des gens. Et quand j'ai commencé mon ministère pastoral en 2004, un pasteur polynésien faisait partie de nos pastorales et il était aumônier des hôpitaux à Paris pour s'occuper principalement de ces personnes. Quel est le rôle de l'Église? L'Église protestante Maui en Polynésie avait en son sein des pasteurs qui avaient déjà alerté sur les dangers de ces explosions. Mais les différentes loyautés qu'elle entretenait avec la métropole, la limitaient dans son combat. En alertant la population sur les dangers courus, l'Église dépassait-elle son domaine spirituel? L'a-t-on accusée de s'engager dans des sujets politiques? Quel est le rôle de l'Église? Quelle est la limite entre faire de la politique et résister aux injustices? Il y a pourtant des sujets politiques où nous sommes fiers de l'action de l'Église. Pensons à Martin Luther King, pasteur baptiste et engagé pour la justice entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis. Pensons à la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Heureusement que des prêtres et des pasteurs se sont mêlés à tous ceux qui se sont engagés pour et lutter contre le pouvoir nazi. En Allemagne, l'Église confessante s'est détachée de l'Église protestante qui était liée au régime nazi. Plus récemment, quand j'étais pasteur à Beauvais, des églises et autres associations. Quelques-uns se sont intégrés à la paroisse. Une grande richesse. Leurs conditions de séjour étaient compliquées. Avant de pouvoir obtenir un hébergement, beaucoup dormaient sous un grand pont à côté du centre-ville. Associations et églises ont mobilisé leurs forces pour être logés décemment. Mais la ville et la préfecture se renvoyaient la balle. Et il y a eu des procès au tribunal. Tous les jeudis matins, pendant plusieurs semaines, à 11h du matin, lors des audiences au palais de justice, nous avons essayé de nous présenter le plus nombreux possible dans le public. Et j'ai pu m'y rendre plusieurs fois. Une personne d'une association m'a vue et a dit « C'est une bonne chose que les églises puissent s'associer à ce combat. » Et dans ses yeux, je voyais bien qu'il était important que les églises aient sorti de leurs réserves pour prendre position. L'église est un lieu où l'on vient se ressourcer spirituellement. Mais cela ne suffit pas. L'église n'a-t-elle pas ce rôle prophétique d'ouverture au monde? Qu'avons-nous à offrir? Que pouvons-nous apprendre de la prophétie de Jonas? Le prophète Jonas est appelé par Dieu, mais on a vu. D'une part, ça le fait sortir de son confort, et d'autre part, Jonas n'est pas d'accord d'aller vers cette ville qui est décriée par ailleurs par les prophètes. Pourtant, Dieu ne se résigne pas au mal. Et Dieu n'a que Jonas pour faire ce qu'il demande. Alors il lui dit, « Lève-toi, pars pour Ninive, la grande ville, prononce des menaces, car sa méchanceté est arrivée jusqu'à moi. » Il faut bien quelqu'un pour révéler la vérité, pour mettre en lumière les actions mauvaises. Alors après l'épisode du poisson qui ramène Jonas sur le chemin de Ninive, il avertit la ville qu'elle a 40 jours devant elle, avant d'être détruite. Mais la surprise arrive. Les gens se convertissent dès le passage du prophète. Le roi lui-même se convertit et ordonne une repentance générale. Hommes et bêtes se couvriront de sacs et ils invoqueront Dieu avec force. Chacun se convertira de son mauvais chemin et de la violence qui reste attachée à ses mains. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera et reviendra-t-il sur sa vie. C'est en effet ce qui se passe. Alors Jonas n'est pas content. Pour qui le prend-on? Il a le sentiment de s'être fait avoir, car il ne veut pas être celui par lequel passe le pardon de Dieu. Il reproche à Dieu de ne pas être juste, humainement parlant, bien sûr, car Dieu est juste à sa manière. Jonas reproche à Dieu d'être bon et miséricordieux, lent à la colère et plein de bienveillance. Alors bien sûr, on est content de bénéficier de la clémence de Dieu quand il s'agit de soi-même. Et pour les autres, eh bien, on aimerait bien parfois que Dieu soit plus sévère. Dans l'histoire de Jonas, au début, il doit crier contre la ville, proférer des menaces contre elle. La ville est comme une entité et le mal est comme... Mais à la fin de l'histoire, Dieu dit, « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 5000 êtres humains qui ne savent distinguer leur droite de leur et des bêtes sans nombre. Après l'entité qui fait du mal, on a des êtres à l'infini. Une infinité de personnes dont Dieu a pitié. Alors on se met à la place de Jonas. La pitié de Dieu n'est pas à notre et pourtant, c'est bien le chemin à prendre. Ici, il y a plus que Jonas. Dit Jésus à ses disciples. Si notre conversion nous amène au Christ, elle nous amène aussi à ce pardon impossible. Il y a des personnes aujourd'hui qui font la lumière sur des situations injustes, entre autres les lanceurs d'alerte, par exemple ceux ou celles qui dénoncent des injustices dans les entreprises. On a besoin de la justice humaine. Et évidemment, on souhaite qu'elle fasse son travail le mieux possible. Jonas était un lanceur d'alerte avant l'heure, finalement comme tous les prophètes. Les prophètes dénonçaient les injustices de leur époque. Je vous donne un exemple. Faire du commerce avec des balances. Ici, il y a plus que Jonas. Jésus a été plus loin. Il a été plus qu'un prophète. Il est venu vivre dans sa chair la blessure humaine, la blessure physique et la blessure d'orgueil qui est bien décrite dans l'histoire de Jonas. Et Jésus en est revenu, vivant, pour nous apprendre le pardon et la libération du pardon. Car elle est là la justice de Dieu. Jamais l'être humain ne pourra réparer ses fautes. Jamais une condamnation ne pourra ramener de la vie là où elle a été supprimée. Mais Dieu a besoin de chacun, chacune, debout, en marche. S'il nous pardonne et s'il demande que nous pardonnions aussi, c'est pour libérer notre énergie, la transformer en énergie de vie et non dans de rester dans notre rancune. La justice de Dieu est celle qui nous sauve de notre enfermement, de nos culpabilités. Continue à nous paralyser. Jésus met dans nos mains des outils et une mission. Individuellement et collectivement, personnellement et en Église. Faire la lumière sur des situations injustes, prendre conscience des conséquences de nos choix, parce que eh bien, nous avons des choix qui peut-être engendrent de l'injustice. Être des témoins et donner envie aux autres de se tourner vers la lumière du Christ et puis entrer dans un mouvement de pardon. Envers soi-même et envers les autres. Prenons notre mission à cœur. Surtout aujourd'hui où la pandémie risque d'accentuer les injustices, apportons un regard nouveau dans notre monde. Un regard qui tient ensemble l'amour et la justice. Nous ne sommes pas seuls. Jésus marche avec nous.